Bonjour, bienvenue dans cette table ronde où nous avons avec nous quatre auteurs de science-fiction qui sont tous des créateurs d'univers. Donc je vais vous les présenter très rapidement en commençant par mon voisin Stéphane Przybylski, donc que j'appellerai Stéphane pour la suite de notre discussion s'il m'autorise. Donc pour vous le présenter rapidement, Stéphane a fait des études en communication et graphisme. Puis il a travaillé pendant un certain temps pour un groupe de presse spécialisé dans la campagne militaire de 1870. Et au fil du temps, il a développé une connaissance approfondie de l'histoire militaire. Mais depuis toujours, il est amateur de science-fiction. Et l'année dernière, en 2015, il a publié Le Château des Millions d'Années, dont vous avez peut-être entendu parler, parce que cet ouvrage a tout de suite eu un retentissement important. Il a été suivi tout de suite d'ailleurs d'un deuxième volume qui s'appelle Le Marteau de Thor. Les deux volumes ont été publiés par le Bélial et constituent le début de, je crois qu'il s'agit d'une pentalogie, une tétralogie, donc c'est quatre, hein, qui s'appelle Origine, dans l'univers, un univers uchronique qui est celui de la Seconde Guerre mondiale qu'on vit chez les nazis. Au milieu des nazis, où vous retrouverez Hitler, Himmler et un certain nombre de personnages célèbres. À côté de lui, vous avez Jean-Luc Marcastel. Jean-Luc Marcastel qui a fait des études en histoire, qui a enseigné l'histoire pendant quelques années. Et puis un jour, il s'est rendu compte qu'il aimait mieux raconter des histoires plutôt qu'enseigner l'histoire. Donc, du jour où il s'y est mis, il a été extrêmement productif, puisque je crois qu'on en est maintenant à une vingtaine de romans à peu près, parmi lesquels on peut citer Louis le Galou, donc ça fait deux ouvrages, chez Nouvel Angle, Franquia, ça en fait déjà trois, chez Mnemos, plus récemment Télucidar, chez Scrinéo, en 2015, c'est celui que vous voyez. En 2015, on peut citer aussi Le Simulacre chez Matago, en trois volumes encore, donc vous voyez, ça va vite. Et avec un retentissement significatif, puisque le Grand Prix de l'Imaginaire catégorie jeunesse l'année dernière, des sélections pour le prix Imaginal des collégiens, le prix Imaginal des lycéens, donc vous voyez. Une belle réception. À côté de lui, vous avez Victor Dixen, dont la biographie officielle nous apprend qu'il est né d'un père danois et d'une mère française, et qui a une caractéristique qui a marqué son œuvre littéraire pour une partie importante au moins de ce qu'il a fait. Alors, c'est magnifique comme histoire, magnifique quand on ne l'a pas vécu. Après une expérience périlleuse et non autorisée dans un parc d'attractions, Victor a souffert pendant plusieurs années de manière chronique d'insomnie grave. Et pendant cette période insomniaque, d'abord, il a bien utilisé son temps puisqu'il a écrit pendant la nuit. Et d'autre part, il a créé un personnage qui s'appelle Jack Spark. Vous trouverez le cas Jack Spark réédité chez Gallimard Jeunesse récemment en quatre volumes, qui a obtenu d'ailleurs le Grand Prix de l'Imaginaire en 2010, qui est quand même qui a un rapport très net avec cette question de l'insomnie récurrente. Ensuite, il y a eu Animal en 2013, toujours chez Gallimard Jeunesse, qui a eu le Grand Prix de l'Imaginaire 2014. Et la grande actualité, je pense que c'est Phobos qui est là, voilà, puisque Phobos, dont le premier volume est sorti en 2015, Victor nous apporte en avant-première le tome 2 pour ses imaginales, qui est la suite d'aventures dans un vaisseau spatial, où pour créer les équipes qui vont coloniser la planète Mars, eh bien, on organise un speed dating à grande échelle. Donc, Victor Dixen est aussi lauréat du prix Imaginal collégien 2016. Félicitations à lui pour ce prix tout neuf. Et enfin, c'est toujours très émouvant et très difficile de présenter Pierre Bordage, parce que... Alors, je vais vous dire quelque chose d'affreux. J'essaie de préparer de manière consciencieuse mes modérations. Il se trouve que l'œuvre de Pierre Bordage, vous le savez, c'est plus de 40 romans, une bonne trentaine de nouvelles... 50, pardon, je n'arrive plus à suivre. Mais il y a une chose dont je suis sûre, parce que je l'ai fait, c'est que quand on imprime la biobibliographie de Pierre Bordage disponible sur le site des Imaginales, elle fait exactement 70 pages. Donc... Elle fait exactement 70 pages. Je l'ai imprimée, je l'ai là. Donc, Pierre Bordage écrit beaucoup de science-fiction, mais toutes sortes de science-fiction, du space opéra, mais aussi de la fantaisie historique, du post-apocalyptique, de l'Uchronie. Il y a tellement d'œuvres qu'on pourrait citer que... Ben, on peut citer, par exemple, La fraternité du Panka, qui vient d'être rééditée chez J'ai lu l'année dernière. On peut citer ses nombreux romans chez La Talente. En particulier, il y en a un qui, moi, m'a marqué, mais beaucoup d'autres aussi, c'est Les Guerriers du Silence. Mais il y a L'Ange mineur, Au diable Vauvert, il y en a... À La Talente, pardon, oui, je m'embrouille dans mes lignes. Donc, voilà, beaucoup, beaucoup d'univers, très riches, très différents. Pierre Bordage a obtenu aussi le Grand Prix de l'Imaginaire, le Prix Julia Verlanger, le Prix Imaginal des lycéens. Donc, je suis sûre que j'en oublie une quantité en ne citant que ces trois-là. Bon, voilà, vous voyez que vous avez devant vous des auteurs qui ont créé des univers riches et denses. Il y a beaucoup de choses à en dire. Je pense qu'une question qu'on peut peut-être tout de suite leur poser... C'est, il me semble qu'ils ont un point commun dans leur démarche, c'est qu'ils ont non seulement développé des univers, mais qu'ils ont très vite eu besoin d'espace pour les développer, c'est-à-dire ça ne tient pas en un petit volume. Globalement, quand l'univers existe, il a une tendance naturelle à s'étendre, il a besoin d'espace. Alors, Est-ce que c'est une nécessité pour explorer en profondeur vos univers? Avez-vous besoin de cette distance littéraire, de cet espace? Est-ce que ma question vous inspire? Qui veut commencer? Ils sont très polis, en plus.
Pour ce qui me concerne, oui, parce que mon travail parle du nazisme et j'avais besoin de beaucoup de place pour pouvoir poser mes personnages, poser l'époque, expliquer les différents rouages qui pouvaient gouverner l'Allemagne à cette époque, toute cette problématique, pour éviter justement de commettre trop de raccourcis, trop d'erreurs et trop de choses qui pourraient induire le lecteur en erreur justement sur l'époque et sur sa réalité, parce que c'était d'abord la volonté de partir d'un socle historique construit et totalement solide et totalement crédible pour pouvoir ensuite imaginer une histoire secrète et une histoire cachée. Voilà.
Avec des personnages qui deviennent extrêmement vivants.
Tout à fait. La psychologie des personnages, elle est très importante, déjà pour expliquer comment ces gens peuvent souvent être des criminels ou pourquoi ils peuvent être amenés à le devenir ou à cesser de l'être. Et dans une époque aussi complexe avec tellement d'enjeux, la Seconde Guerre mondiale, la guerre froide, il était nécessaire, d'ancrer tout ça dans une solide réalité pour, au moment où justement l'histoire dévie, de ne pas être taxé de caricature ou de
simplification.
De simplification, ouais, tout à fait.
Jean-Luc, de l'espace aussi.
Oui, je crois que de toute façon, on a forcément besoin d'espace dès le moment où on crée un univers, parce qu'il faut d'une part créer l'univers et faire en sorte qu'il soit cohérent. Et en plus de ça, de toute façon, enfin pour moi en tout cas, une histoire ne tient pas si les personnages ne sont pas solides et s'ils n'ont pas une vraie psychologie où il y a de vrais personnages. Donc il nous faut quand même aussi le temps de développer les personnages. Finalement, quand on écrit un récit qui se déroule dans notre monde, on n'a pas besoin de développer le monde, on peut se concentrer sur les personnages. Nous, on doit donner de l'importance à l'univers pour que cet univers-là soit crédible et on doit quand même garder, parce que le seul intérêt de l'univers, c'est de faire évoluer les personnages dedans et que ces personnages soient crédibles. Je pense qu'on va beaucoup, peut-être certains d'entre nous, parler, on va parler peut-être de Dune. Tu sais, dans la création d'univers, moi j'ai été marqué par ce monde-là. Les personnages sont extrêmement intéressants et l'univers est extrêmement fouillé, mais ça nécessite de la place, de toute façon. Voilà.
Victor ?
Alors moi, j'ai pas eu jusqu'à présent. Ça fonctionne, oui. J'ai pas eu jusqu'à présent l'expérience d'une création complète d'univers dans un de mes livres, hein, de toute pièce, de fantaisie pure. Je me suis toujours appuyé sur le réel. Donc j'ai pas eu cette contrainte de créer, de crédibiliser un univers. Ça s'est passé plutôt comme une archéologie, notamment dans ma première série, le cas de Jack Spark. Je voulais tourner, explorer les contes de fées, qui pour moi sont un matériau d'inspiration très important. À l'origine, je voulais faire qu'un seul livre sur Jack Spark. Mais en creusant autour de ces contes de fées, qui s'inscrivent dans notre monde, hein, dans le cadre de Jack Spark, j'ai découvert des nouvelles choses, des nouveaux embryons d'histoire qu'il fallait raconter. Et c'est ça qui m'a amené vers la sérialité, à faire un deuxième tome, puis un troisième et enfin un quatrième. Le sachant, quand j'ai abordé ma deuxième série Animal, je me suis dit je vais d'emblée me cantonner à un seul conte et je vais l'annoncer en couverture, comme ça je place les bornes. Ça a donné Animal, la malédiction de Boucle d'Or, qui effectivement tourne autour du conte de Boucle d'Or, essaye d'en montrer la face cachée, essaye d'imaginer ce qui arrive à ce personnage de Boucle d'Or, cette petite fille qui se perd dans la forêt, qui rentre dans une chaumière, elle s'endort dans un des trois lits, elle est réveillée en sursaut, hein, vous connaissez le conte, par les ours qui habitaient là, elle s'enfuit par la fenêtre. Ce qui lui arrive ensuite, le conte ne le dit pas, et c'est ce que j'ai essayé de raconter dans le premier tome d'Animal. Mais c'était un seul conte, donc ça m'a permis de... Et j'ai resservi ensuite ça avec un deuxième tome quand même, le Animal 2, la prophétie de la Reine des Neiges, mais qui là encore prend un conte comme pilier, et ça m'a permis de faire un tome, une histoire. Dans ma dernière série Phobos, ça n'est pas de la fantasy, c'est de la science-fiction, ça se passe aussi dans notre monde, ça pourrait même se passer aujourd'hui, hein. C'est de l'anticipation, plus que de la science-fiction. Là, je te rejoins Jean-Luc, ce qui m'a conduit vers le côté sériel, le fait de faire plusieurs tomes, c'est les personnages, c'est la construction de ces personnages, leur évolution. Un roman me semblait trop étroit pour contenir ces personnages, leur évolution à travers ce voyage spatial qui s'offre à eux, la conquête de Mars. Voilà.
Alors Pierre, tous ces univers.
Mon Dieu. Alors c'est très différent chez moi parce que, enfin c'est très différent. Non, je suis d'accord avec ce que vient de dire mon confrère dans le sens où bon, création d'univers, effet de réel, etc. est obligé de détailler l'univers, mais ce sont les personnages qui décident. Je me suis rendu compte que quand on commence à explorer un univers, quand vous ouvrez une porte, il y a 10 autres portes, et puis que vous ouvrez ces 10 autres portes, chacune des portes ouvre sur 10 autres portes. C'est exactement comme sur la Terre. Vous allez dans un endroit, vous visitez un endroit comme ça, et à côté, il y a quelque chose de complètement différent, et un petit peu loin, c'est encore complètement différent, et on ne peut pas tout explorer. Donc on est obligé, enfin, à mon avis, de voir par les yeux des personnages. Et donc les personnages nous indiquent leurs besoins de l'évolution dans cet univers, leurs besoins d'évolution dans cet univers-là. Et donc c'est eux qui marquent les limites de l'univers, parce qu'ils ne vont pas aller partout dans l'univers. Et après, ça dépend si vous faites comme Game of Thrones, c'est-à-dire que vous utilisez plein de personnages différents qui illustrent l'univers d'une façon ou d'une autre, ou si vous avez un ou deux personnages et vous voyez tout par les yeux du personnage, qui limite forcément votre vision de l'univers. Alors là, je pense qu'on donne des... Enfin, moi, je donne des indications pour crédibiliser l'univers, mais en sachant que, comme les belles passantes de Brassens, je ne sais pas si vous connaissez la chanson, on les voit passer, mais on ne va pas explorer leur vie parce qu'on n'aura pas simplement le temps, parce que le personnage ne fait que passer. Donc voilà, c'est une sorte de compromis entre développer un univers cohérent, crédible, étayé, riche, et à la fois servir l'intérêt du personnage qui est d'évoluer dans cet univers. Sinon, on n'en sortirait pas, on ferait des séries, mais interminables. Dans Les Guerriers du Silence, j'ai 12 personnages et j'aurais pu en créer 12 autres et encore 12 autres et explorer parce que c'est infini. Regardez sur la Terre, je reprends l'exemple de la Terre, il y a des centaines de civilisations, de peuplades, etc., de langues. Et imaginez à l'échelle de l'univers, vous entrez sur une planète, c'est pas forcément monoplanétaire. Il y a peut-être plusieurs civilisations, il y a plusieurs langues. Et on ne peut pas rentrer dans tout, donc il faut faire des choix. Et c'est les personnages qui, moi, m'obligent à faire des choix. Alors parfois, comme dans la fraternité du Panka, j'ai mis dans le titre Panka, ce qui est la racine sanscrite de Panta, donc cinq volumes. Voilà, ça, c'était clair pour moi, il y aurait 5 volumes. Pour certains autres univers, comme Les Guerriers du Silence, je ne savais pas au départ combien de volumes, mais ce sont les personnages qui m'ont entraîné dans la découverte de cet univers. Donc oui, c'est varié. La Résonance, mon dernier, ce sont deux personnages, c'est une poursuite à travers l'espace, c'est une histoire d'amour. Et j'ai eu besoin que d'un seul volume. Donc ça dépend vraiment des projets. Et pour finir sur ça, alors l'historique, ce que fait Stéphane, là, c'est extrêmement compliqué. Je l'ai expérimenté dans l'enjeu mineur où quand on se sert d'archives existantes, ça devient extrêmement compliqué parce qu'on se heurte à l'histoire et on se heurte aux historiens qui sont des gens très sérieux et très austères et qui pointent tous les petits défauts en disant « Monsieur, votre livre est très intéressant sur le plan historique, mais ce pape, ce n'était pas Pie VII, c'était Pie VI à cette époque-là. » « Ah oui, mais bon, c'est une erreur de frappe. Ah, » ouais, d'accord. On s'en sort comme on peut. Et donc là, c'est une autre exigence. Quand on crée des mondes futuristes ou complètement inventés, on crée nos propres archives. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve. Mais le travail est quasiment le même, finalement. C'est-à-dire que un auteur de science-fiction est un historien du futur, et aussi on peut être un historien du passé. Mais notre travail reste le même, sauf que l'un s'appuie sur des archives existantes et l'autre crée ses propres archives.
Bien, du coup, je vais revenir vers Stéphane, puisqu'il est effectivement dans une position un peu particulière par rapport à d'autres. Est-ce que c'est une contrainte, quand on est de formation historien, donc on a ce souci de justesse, de précision, et qu'en même temps, on écrit un récit uchronique, parce que il y a quand même, en 1939, des choses dans votre roman qui ne sont pas dans l'histoire officielle, et puis il y en a de plus en plus. Donc... Est-ce qu'on s'autorise des libertés ou est-ce qu'on a toujours ce souci d'être fidèle ?
Au départ, les libertés, non, effectivement, c'est comme disait Pierre, c'est-à-dire qu'on est obligé, c'est un travail d'équilibrisme, hein. On doit toujours être complètement en raccord par rapport à l'histoire, la vraie, parce qu'effectivement, l'erreur, elle ne pardonne pas, hein. C'est comme sur un fil. Effectivement, il y a des gens qui vous attendent au tournant en permanence pour vous dire « Ah oui, effectivement, là, dans ce type de véhicule, ce n'est pas possible parce qu'il a existé seulement... absolument, oui, oui, absolument. Je l'ai connu aussi, ouais, donc je peux en parler. Ouais, absolument, c'est exactement ça, ouais, complètement. Donc, effectivement, la rigueur historique, c'est déjà impératif pour cette raison-là. Et puis aussi parce que dans la tétralogie des origines, la vraie histoire se mêle avec une autre histoire, une histoire cachée, une histoire secrète, qui ne dit pas si elle sera ou pas uchronique, enfin pas,
on le pressent,
tout à fait. Mais je dirais le fait de devoir mélanger les deux, ça oblige aussi à respecter un tempo chronologique qui soit d'une part rigoureux, c'est-à-dire les vrais événements doivent se dérouler au moment où ils se déroulent effectivement dans la vraie histoire. Et après, toute la difficulté, c'est de faire coïncider l'aventure des personnages avec cette véritable histoire. Et là aussi, c'est un autre travail d'équilibre, c'est-à-dire de dire, par exemple, eh ben voilà, si des services secrets devaient conduire une exploration archéologique pendant le Second Conflit mondial en Irak et donc traverser des zones de guerre pour cela, ça leur prendrait combien de temps ? Comment on peut rendre crédible un tel voyage avec les difficultés que cela pourrait supposer, sachant qu'en plus, tout cela doit être secret ? Donc voilà, ça fait beaucoup de variables, beaucoup de paramètres à intégrer en permanence à la narration pour pouvoir rester cohérent. Parce que voilà, encore c'est encore et toujours chez moi un souci de cohérence qui m'anime. C'est un univers conspirationniste, c'est un univers qui pourrait s'apparenter à X-Files ou aux Aventuriers de l'Arche Perdue. Mais derrière, il y a une volonté de crédibilité. Les événements que je décris... pourrait avoir existé si. Après, le si, on le place là où on veut.
Alors là, je crois que je vais me tourner vers Victor, parce qu'on a Stéphane qui vient de nous expliquer la manière dont on essayait de travailler, en plus avec une culture d'historien, sur une époque assez récente, sur laquelle on sait quand même beaucoup de choses. Pierre nous a parlé plutôt de la création d'univers qui n'existe pas encore, d'univers à découvrir, qu'il construit, qu'il invente et qui se développe au fur et à mesure. Mais Victor nous disait, je suis plutôt dans le quotidien. J'ai des, enfin, au moins pour l'affaire Jack Spark, on part du réel. Et puis, il s'y infiltre des choses un peu mystérieuses, un peu différentes. Quelle contrainte ça crée ?
C'est vrai, dans Jack Spark, effectivement, qui est un roman contemporain, on pourrait dire que c'est de l'urban fantasy. Donc, au début, on est vraiment, on suit cet adolescent, Jack, new-yorkais, 15 ans, qui a cette particularité, il est insomniaque, il dort très peu. Ses parents ont tout essayé pour le faire dormir, rien n'a fonctionné. Et en désespoir de cause, ils vont l'envoyer dans ce camp de vacances, qui est aussi une clinique perdue dans les montagnes rocheuses au cœur des États-Unis, où on prétend soigner les adolescents différents, à problèmes comme lui. Il va se retrouver dans ce lieu très isolé, avec d'autres adolescents qui ont tous été envoyés là pour une raison particulière. Et petit à petit, il va se rendre compte que les choses ne sont pas ce qu'on lui avait annoncé. Les thérapies qui sont employées soi-disant pour le soigner vont avoir chez lui des effets inattendus, révéler des réactions cachées. Et c'est là, petit à petit, qu'on bascule d'abord dans le fantastique, avec ce doute entre la réalité et l'étrange, et puis, de manière de plus en plus franche, dans la fantaisie. Ce qui a constitué une contrainte pour moi, c'était, comme je le disais tout à l'heure, de respecter, sans trop dévoiler la matière du livre, mais le fond des contes de fées que j'ai vraiment utilisé dans ce roman. Dans Animal, ce sont des romans historiques, hein, les deux, qui se passent dans les années 1830. J'ai choisi cette époque parce que le conte de Boucle d'Or, dont je voulais parler, a été écrit pour la première fois, a été couché pour la première fois sur le papier par un écrivain anglais, Robert Southey, dans les années 1830. Et après, j'ai mené des recherches historiques, et ça rejoint vraiment ce que tu disais, Stéphane. J'ai essayé de coller au plus près à la réalité des dates, des événements, des personnages. Alors, je n'avais pas en tête l'œil critique de l'historien qui pourrait lire le roman et relever les incohérences, mais plutôt l'effet de vraisemblance, de réalité, qu'on ait l'impression d'être vraiment dans la réalité et de mêler ensuite aux événements historiques, aux personnages historiques, des éléments non seulement de fiction que j'inventais, mais également de fantastique. De manière à ce que, lorsque le lecteur referme le livre, ils se disent, mais est-ce que peut-être les choses se sont passées comme ça, comme je l'ai lu dans le livre ? Peut-être que Boucle d'Or a vraiment existé, et peut-être qu'il y a une part de fantastique dans notre histoire qui reste cachée. C'est la raison pour laquelle les deux tomes d'Animal, je les ai terminés par une frise chronologique qui reprend les grandes dates historiques et qui les entremêle avec les dates inventées et les personnages de fiction dans le contexte des guerres napoléoniennes, parce que c'est ce dont il est question dans Animal. Et ce jeu d'aller-retour entre le réel et la fiction a été pour moi particulièrement intéressant dans le tome 2 autour du personnage de Hans Christian Andersen, qui est donc l'auteur historique du conte de la Reine des Neiges, et que j'ai voulu faire intervenir comme personnage à part entière dans le roman. C'est vraiment un des protagonistes. Et en voulant coller à sa biographie, aux dates de sa biographie, en voulant les respecter dans le cadre de mon roman, j'ai appris à le connaître, tout simplement. C'est comme si je l'avais rencontré pour de vrai. Et c'est ce qui a été finalement le plus gratifiant dans la rédaction de ce livre, La prophétie de la Reine des Neiges, c'est avoir eu l'impression, à travers le temps, de rencontrer Hans Christian Andersen.
Alors, je vais me tourner vers Jean-Luc Marcastel, qui, alors que Victor Dixen nous expliquait avec quelle rigueur et quelle cohérence il est parti des contes, par exemple, Jean-Luc Marcastel, il le revendique. Il a plongé avec délice dans des univers de fiction très tôt dans sa jeunesse, qui l'ont ébloui. Et je pense qu'il y a dans votre démarche un peu du plaisir de faire revivre cet émerveillement, de le renouveler. Télucidar, évidemment. Moi, ma jeunesse a été bernée par Edgar Rice Burroughs. J'imagine qu'on a partagé.
C'est un clin d'œil assumé totalement. Télucidar de Edgar Rice.
Et c'est un plaisir de retrouver des résonances, des échos aussi dans des univers. Alors, est-ce que c'est une recréation des univers magiques qui...
C'est une recréation, disons que... Oui, moi, je suis tombé dans le fantastique quand j'étais petit. Je devais avoir 9 ans. J'ai écrit quasiment tout de suite. Je me suis mis à écrire tout de suite après des petites histoires, à peu près à 9-10 ans. J'ai commencé. Et j'avais adoré, par exemple... Mais j'ai toujours adoré l'idée de c'était une théorie qui était très en vogue au début du XXe siècle, l'idée de la Terre creuse. Par exemple, pour Télucidar, les gens étaient persuadés que la Terre était creuse et qu'à l'intérieur, il y avait un monde intérieur, comme il y a dans Jules Verne, par exemple, dans Voyage au centre de la Terre, ou dans Télucidar d'Edgar Rice Burroughs. Et d'ailleurs, je crois que tant est si bien, mais peut-être tu me diras, Hitler avait, paraît-il, envoyé une expédition pour trouver le passage nord, soi-disant, pour aller dans le monde intérieur, soi-disant. Une frange des nazis, enfin, la Nenerbe, là, qui avait fait ça, oui, je crois. Hein. Et donc c'était vraiment une théorie qui était très implantée.
Pardon, c'est l'officine SS en fait qui est le point de départ du château des millions d'années. Non, c'est-à-dire l'Annonerbe. Voilà, donc officine qui recherchait pas mal de choses.
Et le marteau de Thor, entre autres.
Oui, voilà, donc le marteau de Thor. Et
la filiation avec les Atlantes, des nazis, enfin, des choses comme ça.
Absolument, absolument, oui.
Tout à fait. Et donc, Télucidar part du principe que, voilà, on ne le sait pas, mais nous marchons sur un monde intérieur. L'intérieur de la Terre est creuse. Il y a un monde intérieur dedans, dans le centre enflammé de la Terre et le Soleil. Autour, moi, dans mon monde, tourne une espèce de petite lune qui projette un cône d'ombre sur ce pays où l'horizon monte à la place de descendre. Quand on regarde, ça se perd dans le lointain, mais c'est en train de monter. Et donc, il y a des peuples qui vivent là-dedans, qui vivent des peuples humains, on ne sait pas trop, de différentes civilisations qui sont descendues, on ne sait pas trop comment ils sont arrivés là, qui ont fusionné. Il y a des Grecs archaïques qui ont fusionné avec des peuples précolombiens, donné des civilisations originales, qui vivent en bonne entente, en symbiose avec des races de dinosaures évolués, un peu humanoïdes. Et donc, par contre, il y a une société terrestre actuelle, enfin, dans un futur proche, qui découvre un minerai, qui, par des forages, découvre ce monde, découvre un minerai dans ce monde-là qu'elle va se mettre à exploiter de manière intensive, au risque même de déstabiliser la Terre. Personne n'est au courant à la surface. Et en fait, elle va commencer à déstabiliser aussi ses peuples, à dresser les humains contre ces dinosauriens avec qui ils vivaient, en disant, voilà, les humains devraient avoir la prééminence, c'est eux qui devraient diriger. Donc en fait, un peu ce qui se passe aussi dans certains pays, on va dire, de nos jours, qu'on exploite, où on reste les uns contre les autres, voilà, il y a tout un peu une réflexion là-dessus. Et donc une jeune fille d'un de ces peuples, une des princesses d'un de ces peuples, va voler une foreuse, venir dans notre monde et venir réclamer de l'aide à des gens à la surface pour combattre ce qu'ils appellent les surfaciens, c'est-à-dire les autres gens de la surface. Voilà, donc c'est le point de départ de cette aventure. Et le simulacre, là, j'ai repris à mon compte le personnage de D'Artagnan en posant comme point de départ que sous le règne de Louis XIII, des extraterrestres auraient attaqué la Terre. Donc on aurait failli être anéanti, mais on est sauvé in extremis par une autre race qui va les chasser et nous vendre une technologie bien moindre que la leur, mais quand même très en avance sur ce temps. Donc dans ce 18e siècle alternatif et sous le règne de Louis XIV, eh bien, il y a des diligences volantes, les gentilshommes se battent à coups de rapière énergétique et de pistolets à lumière qui mettent une minute à se recharger. Et dans le noir du ciel au-dessus de la Terre, eh bien, on est en train d'achever la Versailles céleste, la nouvelle résidence du roi. Et sur un galion qui fait la navette entre la Terre et l'orbite pour amener les élites au fait d'inauguration de cette Versailles céleste, on va faire la connaissance d'une jeune voleuse qui s'appelle Estella, qui montait sur ce vaisseau déguisé en grande dame pour dérober leur richesse aux nobles et qui va malheureusement essayer de dérober une bague à un homme qui s'appelle Charles de Basse-Castelmore, dont certains d'entre vous connaîtront peut-être le nom, qui est en fait le capitaine d'Artagnan, un peu vieillissant, qui va mourir pour lui permettre de s'enfuir. Enfin, ils vont être poursuivis par des automates, etc. Et donc, au moment donné où il va mourir, va se réveiller sur Terre un jeune D'Artagnan de 20 ans qui est le simulacre, le clone du D'Artagnan originel. Voilà. Et qui va devoir retrouver un petit peu la mémoire du premier D'Artagnan, parce qu'on doit enregistrer la mémoire de son simulacre régulièrement pour le mettre à jour, pour qu'il puisse donner le change. Et mon héros, le D'Artagnan vieillissant, ne l'a pas fait. Donc, notre jeune D'Artagnan a un trou de 20 ans dans sa mémoire. Il n'a que la mémoire qu'il avait à la fin des Trois Mousquetaires. Donc, il va devoir retrouver l'héroïne qui détient une bague dans laquelle sont enregistrés les souvenirs du D'Artagnan originel. Donc, à mi-chemin entre George Lucas et les Trois Mousquetaires, deux des influences que j'avais quand j'étais gamin. J'avais adoré Alexandre Dumas, j'avais adoré La Guerre des Étoiles, je suis tombé dedans quand j'étais petit, j'ai voulu mélanger les deux.
Alors je vais poser une question un peu différente à Pierre Bordage, parce que quand on a inventé autant d'univers aussi différents, aussi immersifs, ils le sont pour le lecteur, j'imagine à quel point ils peuvent l'être pour l'auteur. Comment on continue à vivre avec eux quand on en a autant pour lesquels dont on a été le démiurge. Est-ce que c'est celui sur lequel on est en train de travailler qui vous accompagne, celui dans lequel on a vécu très longtemps et qu'on a vraiment approfondi, le prochain à venir, le dernier qui est né, dans lequel vous êtes avec le plus de plaisir?
Je ne sais plus.
J'ai du mal, j'arrive à dire vous, mais j'y arrive.
T'y arrives? Vous y arrivez à dire tu?
Tu y arrives jusqu'à à dire vous, présent. Je sais plus, hein.
Lequel est le. C'est-à-dire que en général, quand j'ai fini un livre, donc j'ai fini un univers, je suis très content d'avoir fini parce que l'éditeur attend le livre depuis un certain temps. Et j'ai mon téléphone qui chauffe un peu. Donc, quand je mets le mot fin, je suis très soulagé d'avoir fini. Et donc, je m'empresse pas de l'oublier, mais de passer à autre chose parce que, évidemment, j'ai un projet en cours. Et donc, je me plonge tout de suite, enfin, je m'accorde une semaine ou 15 jours et je me plonge tout de suite dans le nouvel univers en cours. Donc, oui, je suis plutôt. Je vis avec l'univers que je suis en train d'écrire.
En construction.
Hein, en construction. Ceci dit, la façon dont je travaille, c'est que j'allume la lumière le matin de mon bureau ou de mon cerveau, ça dépend. Et je replonge dans l'univers. Et puis, fin de journée, quand j'arrête l'écriture, je ferme la lumière. et je passe à autre chose qui est ma vie privée. Ça, c'est des enfants qui m'ont appris à faire ça, parce que les enfants, vous savez, ils n'ont rien à foutre que vous soyez dans des univers spatiaux. Eux, ils veulent un goûter, un truc bizarre, quoi. Et donc, d'un seul coup, ça vous remet sur Terre de façon très brutale. Et donc, il faut vous adapter immédiatement. Et donc, à force de m'adapter comme ça, j'ai pris l'habitude, en sortant de mon bureau, de couper court à l'imaginaire pour vivre dans la vie réelle, bien que parfois je ne sache pas lequel fait partie du réel et lequel fait partie de l'imaginaire. C'est une grande question. D'ailleurs, posons-nous la question.
Nous la posons.
Posons-nous la question. Le réel est-il de l'imaginaire? C'est ce que disent les Indiens avec le concept de Maya, qui est l'illusion. Alors, ouais, on peut travailler là-dessus. Bon, bref, dans notre réel, voilà. Et puis, j'ai gardé cette habitude de me rythmer. Mes enfants sont grands, mais j'ai gardé le rythme qui est, le matin, je me mets dans l'univers imaginaire, le soir, j'en sors. Et voilà. Et je ne pense plus aux univers que j'ai créés. Et ceux qui sont déjà parus depuis un certain temps, ce sont les lecteurs qui me le rappellent en me disant « Ouais, vous avez tel personnage, attendez, tel personnage. Ah oui, et sur telle planète, attendez, quelle planète. Ah oui. » Parce qu'effectivement, il y en a beaucoup et donc j'ai du mal à tous les mémoriser. Donc les lecteurs, ils les mémorisent beaucoup mieux que moi. Et ils me rappellent mes propres... Et c'est ça qui est bien, parce que je pense que le livre, il est fait pour ça, il est fait pour appartenir au lecteur. Moi, je suis juste le passeur, hein, je ne suis pas le créateur. Finalement, quel est l'acte de création dans l'univers? J'en sais rien, je ne sais pas comment ça vient, je ne sais pas comment ça se passe. Ça coule, voilà, c'est quelque chose qui vient naturellement. Et je ne suis qu'un passeur, je ne suis pas un créateur. Et moi, je passe l'univers à quelqu'un qui va s'en emparer ou pas, parce qu'il y a des gens qui détestent. Ah non, moi, il y a des gens, vous voyez, ils regardent un bouquin comme Résonance, là, la couverture, et ils font un détour, comme si ça pouvait être radioactif, mais des fois c'est radioactif, mais...
Pas dans un salon de l'imaginaire.
Non, pas dans un salon d'imaginaire, non, ils se collent. C'est ouais. Mais sur les salons généraux, aux généralistes, il y a des gens, ils font carrément un détour, et disent « Oh, ça me fait peur !» Bon, vous avez raison d'avoir peur, c'est encore pire que ce que vous croyez. Donc ça appartient au lecteur, on prend ou on prend pas après, mais c'est le lecteur qui s'en empare, et je pense que l'imaginaire du lecteur fait le reste. Si nous, on a créé cet effet de réel qui est très cher aux auteurs de science-fiction, parce que partant d'une base complètement imaginaire, il faut sans arrêt appuyer sur le réel, créer l'effet de réel, et donc donner des éléments de réel, ce qui veut dire... Spielberg, c'est pour toi. C'est Steven. Ce qui veut dire avoir quelques notions, par exemple, d'astrophysique, ce que je n'avais pas du tout au départ. Moi, j'avais fait, par exemple, La Guerre du silence, mon premier cycle, j'avais fait une sorte de système stellaire dont j'étais hyper fier, quoi. Qu'est-ce que c'était beau. Et mon éditeur, il m'a fait une leçon d'astrophysique dans la marge. Il m'a dit, Pierre, virgule, ceci n'est pas possible pour telle et telle raison. Bam, 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 bam. Oui, mais je dis, mais c'est beau. Oui, mais il me dit, c'est pas possible. Oui, mais c'est quand même beau, quoi. Oui, mais c'est pas possible. Donc il a fallu que je choisisse une autre type d'explication, parce que effectivement, parlant de l'histoire où on est obligé de respecter le réel, enfin l'existant, pour pouvoir crédibiliser son histoire, en science-fiction, vous avez quelques notions astrophysiques dont on est obligé de tenir compte, parce que le lecteur féru d'astrophysique, lui, il va sortir immédiatement, et celui-là, on l'a perdu par paresse, tout simplement. Donc moi qui suis un pur littéraire et pas du tout de notion scientifique, alors la physique, pour moi, j'ai essayé d'éviter le cours, hein. Il y en a, c'était la gym, moi, c'était la physique. Et ça ne m'intéressait pas sur le plan scolaire, mais quand il a fallu aller chercher des infos pour les romans, donc ça m'a paru sonore prodigieusement intéressant. J'ai lu des auteurs comme Trinh Xuan Tuan et tout ça, un astrophysicien qui est en même temps mêlé de bouddhisme, ce qui m'intéressait. Et donc j'ai acquis quelques notions scientifiques pour crédibiliser l'univers. Voilà. Et puis, partant de ça, je ne me prends pas plus la tête que ça. Les univers se déroulent, ils me viennent de façon un peu miraculeuse, je pense, ou de façon spontanée. Et puis après, c'est à vous que c'est pour vous, quoi. C'est plus tellement pour moi, donc ça sort de ma tête et ça rentre dans la vôtre. Enfin, j'espère. Mais pour votre bien, hein, rassurez-vous.
Alors, Pierre vient de nous parler de art science, un petit peu.
Oh là là.
Non, mais je veux dire, les contraintes pour... pour écrire des choses qui peuvent exister ou qui sont suffisamment crédibles, c'est quand même accepter de prendre en compte un certain nombre
de données
scientifiques.
Parce qu'il faut bien dire une chose, c'est que dès que vous utilisez des vaisseaux spatiaux qui vont plus qu'à vitesse lumière, vous êtes complètement dans l'irrationnel. Hein. On est dans la magie pure, hein. On est d'accord. Hein. Faut pas déconner quand même. Hein. Mais on a le droit parce que ça n'existe pas.
Alors, il y a une chose dont vous partez tous apparemment et qui existe, c'est les personnages. Ça semble être votre fil conducteur commun. Après, autour de ces personnages et du principe de l'histoire se construit l'univers progressivement. Le thème de la table ronde, l'étiquette que vous portez, donc on ne voit plus, mais que vous pouvez éventuellement contester, c'est celle d'auteur de science-fiction. Donc j'ai aussi envie de vous interroger sous cet angle-là. On est quand même dans un salon où on parle beaucoup de fantasy, un petit peu moins de science-fiction. Alors, est-ce que la science-fiction a plus de difficultés à faire vivre, alors je vais dire des gros mots, mais la dimension poétique, la musique du texte, la sensibilité du texte. Est-ce que la science-fiction est un univers qui vous permet de l'exprimer avec autant de facilité? Et la question est peut-être particulièrement embêtante pour Stéphane. Donc je vais tout de suite me tourner vers lui.
Elle est particulièrement embêtante, oui. Sur les personnages.
L'Uchronie menée avec beaucoup de rigueur, c'est une certaine forme de hard science, où la science dont il est question, c'est l'histoire. Mais est-ce que ces contraintes qui relèvent d'un souci de précision, de justesse, d'exactitude, est-ce que c'est au détriment de l'imaginaire au sens classique, de la musique, de la poésie, du texte? C'est des univers durs, ceux de la Seconde Guerre mondiale.
Déjà, la sensibilité propre des personnages, forcément, elle va s'exprimer parce que voilà, ils vont être confrontés à des choses extraordinaires. Donc là-dessus, oui, il y a quelque chose de cet aspect-là. Maintenant, sur la poésie de l'histoire, c'est quand même une histoire qui est quand même assez sombre, qui est racontée. Donc dans cet univers-là, c'était compliqué de partir, par exemple, dans de l'onirique. Je ne me voyais pas partir là-dedans.
Non, mais justement, je me demandais si vous opposiez l'onirique et la cohérence scientifique. Est-ce que c'est compatible ou pas? Je me demandais.
Compatible, alors ça, moi, je ne sais pas.
Moi, je pense que oui, c'est totalement compatible. Je ne vois pas pourquoi ça ne le serait pas. Je voudrais citer comme exemple, moi, un auteur que j'adore. C'était Nathan Hennebert qui avait écrit La Plaie. Et qui est pour moi c'est peut-être mon livre préféré, c'est un de mes livres que je préfère en tout cas, qui est une poésie extraordinaire, qui est très sombre, mais qui est un space opéra extraordinaire, qui est extrêmement onirique justement, comme quoi on peut très bien écrire des histoires de science-fiction et mettre de la poésie dedans, que ce soit dans le texte, dans le thème.
Ouais, je pense que l'écriture est une musique déjà. Quel que soit le thème abordé, c'est la musique de l'auteur qui sort, c'est le sang de son âme. Donc, quelque part, on va le reconnaître. Aucun de nous n'écrit de la même façon, pourtant on dispose des mêmes mots. Enfin, ça dépend de l'étendue de son vocabulaire, n'est-ce pas? Mais on dispose tous des mêmes mots, du même dictionnaire, et donc on a une façon particulière d'écrire qui crée une forme de musique, quel que soit, à mon avis, le thème abordé.
Moi, je rejoins complètement ça, et on peut citer des exemples, effectivement, pour montrer que la science-fiction peut être tout aussi poétique que peut l'être la fantasy. J'ai des noms comme ceux de Bradbury qui me viennent en tête. C'est de la poésie pure, c'est de la poésie en prose. Les fables de Limpour, pour moi, c'est de la poésie pure. Il y a un travail sur le langage, sur la manière dont des hommes-animaux peuvent s'exprimer, qui relève de la poésie pure, pour moi, dans l'expression. C'est un livre que j'ai adoré. Donc, je pense qu'il n'y a pas de... C'est pas le genre...
On vante ici, hein.
D'ailleurs, j'ai jamais su si on disait l'impur ou l'impur.
L'impur, parce que UHMP en français, c'est un. Et impur, ça donne phonétiquement l'inverse de ce que signifie le mot.
D'accord.
Parce que le mot signifie l'humain pur, mais on l'entend impur. Ah, c'est chiadé. Hein.
Eh oui. Donc voilà, on est sur la sémantique, le travail sur les mots, les différents sens. Et je pense qu'il y a plein d'exemples comme ça, et ce n'est pas le genre qui va dicter la qualité poétique ou pas du texte. Et il me semble que les contraintes qu'on peut s'imposer ou qui nous sont imposées techniques ou historiques sont, comme toutes les contraintes, des aiguillons à la créativité. Et il n'y a pas de raison que ça limite la qualité d'expression du texte. Alors peut-être que dans la science-fiction qui se tourne vers le futur, la nature de l'émotion poétique va être plus un vertige des possibles. On va être moins dans un lyrisme qu'on retrouve à mon avis dans la fantasy, et là Tolkien pour moi est vraiment une référence. Je trouve qu'il y a un lyrisme du désenchantement du monde chez Tolkien, cette magie qui peu à peu quitte le monde, ces elfes qui partent pour un autre continent pour ne jamais revenir. Il y a quelque chose d'élégiaque qui est peut-être propre à la fantasy, que je retrouve moins dans la science-fiction.
Si, c'est possible de retrouver en space opéra, ouais. Je pense.
Mais là, est-ce que le space opéra, c'est vraiment un genre hybride entre la fantasy et la science-fiction?
Absolument, c'est de la fantasy avec des boulons, comme disait Pratchett, et Et donc, voilà, c'est... Les personnages archétypaux du space opéra sont très proches de ceux de la fantasy.
Complètement. Il suffit de regarder Star Wars.
Ouais, même Dune, on en parlait tout à l'heure. C'est quand même un univers de fantasy dans un univers de quincaillerie futuriste.
Bah, si on regarde La Guerre des Étoiles, de toute façon, ce n'est pas de la science-fiction. En fait,
c'est de la fantasy. Donc, la même poésie peut se retrouver entre la fantasy et le space opéra. Alors, après, sur les ouvrages de hard science, c'est là où ça devient compliqué. Si on part d'un principe scientifique extrêmement pointu de donner de la poésie à ça, je pense que les mathématiciens peuvent y arriver.
Moi, je citerai bien L'œuf du dragon de Robert Forward. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui l'ont lu. C'est un roman de pure hard science, avec des créatures qui évoluent sur une planète à gravité extrême. Et l'évolution de cette civilisation est mystérieuse, émouvante, l'invention des mathématiques, le rapport au monde, la perception qu'ils peuvent en avoir. Je vous assure que c'est extrêmement poétique. En tout cas, pour moi, ça a été un choc esthétique, ce récit.
Mais il y a un truc qui est aussi évident dans les univers de science-fiction futuriste, c'est l'invention de mots. L'invention de mots, ça nous oblige à réfléchir sur la langue, à créer des étymologies fictives, donc à créer à la fois un vocabulaire compréhensible et à la fois différent. Et ça, c'est un vrai travail super intéressant.
Très amusant.
Ouais.
Bah, moi, je sais que toi, tu l'avais fait dans L'Homme Pur, donc les fables de L'Homme Pur, tu avais fait ça.
Impur.
Et moi, je l'avais fait dans Prairie, justement, où là, par contre, c'est des gens qui ont été miniaturisés, qui font la taille d'un insecte, qui vivent au milieu des insectes.
Oui.
Et comme ils vivent dans un univers impitoyable et que l'information est vitale, le mot qu'on peut prendre le temps de prononcer, ça peut être celui où un insecte va vous bouffer. Donc, ils parlent
d'ailleurs,
du français, mais écourté.
Tes mots, tes noms d'insectes sont très, très bien choisis, je crois.
Oui, voilà, bah, ils ont des mots. Les insectes, ils appellent ça des carapates. Et après ça, bah, il va y avoir, par exemple, je sais pas, il y a le bousier, ils appellent ça un pousse-crotte. Voilà, par exemple. En fonction de une araignée, c'est un ventre-croche, voilà, des choses comme ça. Mais tous les mots, quand ils font des phrases, ils écourtent les mots. Un matin glacé et brumeux, ça va être chez eux glace brumate. Enfin, il faut que ça aille très très vite. L'information doit être très rapide parce qu'autrement c'est dangereux. On n'a pas le temps. Il n'y a que quand dans les moments où ils sont dans leur forteresse.
Tu veux dire qu'ils ont inventé le langage SMS ?
C'est ça. Et ils ne se laissent aller à la poésie des mots, à prendre le temps des mots, que dans les moments où ils sont vraiment à l'abri, où ils peuvent à ce moment-là se détendre, se livrer à la poésie entre eux, discuter entre eux et jouer avec les mots.
On n'aura plus énormément de temps pour continuer, mais j'aimerais bien que vous nous disiez un petit mot sur pas les projets en cours. Parce que pour certains, vous êtes déjà engagés dans des projets qui vont vous occuper un certain temps. Mais les projets que vous portez en germe, quelque part dans un petit coin de votre cœur ou de votre cerveau, ou les deux, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Dans quelle direction? Travailler quel genre de sujet, de domaine? Avez-vous des idées en tête? Je crois que Pierre en a, il a déjà attrapé le micro.
Non, j'ai oublié de le reposer, mince. j'ai plusieurs projets en tête, voilà. J'en ai un en cours, j'en ai un presque en cours, j'en ai un pas encore en cours, et des projets très différents, dont l'un.
Deux qui sortent d'ici quelques mois.
Alors il y en a un qui sort en octobre, qui est une fantasy. Donc du coup, je suis démasqué, je suis un auteur de fantasy, mais pour l'instant j'avais pris les déguisements de science-fiction, mais là voilà, c'est un vrai ouvrage de fantasy qui va sortir chez Brajlon en octobre. J'ai en projet un projet un peu secret parce que bon voilà, parce qu'on m'a demandé de ne rien en dire pour des raisons de je sais pas quoi, de paranoïa éditoriale. Il est là l'éditeur. Et puis j'ai en projet un roman érotique, c'est tout à fait différent, une initiation sexuelle. Et j'ai un projet qui est le contre-pied de la disparition de Pérec, qui est la disparition d'une lettre. Moi, c'est l'apparition d'une lettre. Voilà, traité sous forme encyclopédique, bonjour. Je me suis mis des défis que je ne sais pas si je suis capable de relever.
Une 27e lettre, alors.
Une 27e lettre.
Qui va envahir progressivement.
Et qui va changer le sens des mots. Et on a une sorte d'enquêteur linguiste qui va essayer de comprendre, alors que tout le monde ne semble pas s'être aperçu qu'il y avait une nouvelle lettre dans l'alphabet, va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Ouais, hein. Mais je suis pas rendu au bout de mes peines, mais bon, voilà. Ouais.
D'autres projets, Victor ?
Moi, je suis encore plongé dans ma série Phobos, dont effectivement, alors c'est un hors-série qui paraît pour les Imaginales, non pas le tome 2 qui est paru en novembre. Le tome 3 paraîtra en novembre prochain et je suis encore en train de l'écrire. Quant à la suite, j'ai plein de projets qui fourmillent dans un coin de ma tête, dans mes tiroirs et autres, mais je m'efforce de ne pas trop y réfléchir tant que je suis encore dans une saga en cours. Mais j'enchaînerai ensuite, je sais directement, comme disait Pierre, lui, il a besoin d'une semaine ou deux de latence entre deux projets. Moi, c'est quelques heures seulement, il faut que je m'y replonge tout de suite. Donc ça viendra très vite.
Jean-Luc ?
Alors là, j'ai un projet en cours, non, c'est quasiment fini, parce que j'ai fini la rédaction, j'en suis aux corrections, je dois rendre à mon éditeur d'ici deux semaines. Donc là, j'ai un polar ésotérique autour du personnage de Gerbert d'Auriac, donc Sylvestre II, qui était le pape de l'an 1000, qui a été un pape mathématicien, qui a introduit les mathématiques arabes en France, qui créé des astrolabes, des choses comme ça, des orgues, enfin qui était un polytechnicien, et qui était vraiment assez mal considéré par l'Église à cette époque-là. Et on disait même que c'était un sorcier, on disait qu'il avait une tête mécanique qu'il avait ramenée d'Inde, il aurait été étudié en Inde, certains disaient, et qui répondait par oui ou par non aux questions qu'on lui posait. Donc à partir de ça, j'ai dit, mais c'est extraordinaire, j'ai un personnage pour faire... Donc voilà, et comme à Auriac, dans ma ville où je suis, on a retrouvé l'abbaye où il a étudié, je me suis dit, tiens, voilà, et si quelqu'un retrouvait la fameuse tête mécanique dans les ruines de l'abbaye, et donc cette tête va être volée, il va y avoir un meurtre, et donc ça va nous entraîner jusqu'à Paris, de Paris à Londres, Madrid, jusqu'à Rome. Donc, on va découvrir plein de choses. Donc ça, c'est à paraître en janvier. Et puis après, j'ai un autre projet que, un peu plus lointain. Alors là, ça va être un peu une sorte de Harry Potter, mais avec de la cuisine. Ça va s'appeler l'auberge entre les mondes.
Avec voilà. Des potions ?
Non, avec des vraies recettes.
Stéphane, après origine ou à côté d'origine ?
D'abord origine, et donc un peu comme Victor, je m'efforce de ne pas penser à ce qui viendra ensuite, parce que je dois d'abord me concentrer sur le quatrième tome qui est en cours de rédaction.
Et alors dans origine, est-ce qu'on diverge en bifurque ? Oui, je crois. Ah non, ça, on n'est pas en train de nous mettre dehors, ne nous sentons pas visés. Donc... il y a une évolution dans Origine, il y a déjà 3 tomes qui sont sortis, donc 2.
Le 3 sort fin juin.
Le 3, il est imminent, oui. Donc on commence à voir se dessiner une évolution. On peut avoir quelques petits éléments sur les glissements,
non.
Rien. Faudra le lire.
Désolé.
Mais de toute façon, je crois qu'il est temps qu'on libère la salle. Donc et surtout qu'on remercie nos auteurs qui vous présentent leurs livres ici, quelques-uns.